Bonjour Benedict Time, nous sommes aujourd'hui le 19 février, et nous sommes rue Broca et vous continuez à explorer des écrivains qui ont un vécu tout à fait particulier. Donc aujourd'hui vous allez recevoir un monsieur qui a un nom de consonance italienne.
Oui, je reçois Giulio Minghini pour son premier roman, premier récit, qui s'appelle Fake. Alors, je vais rapidement résumer de quoi il s'agit, hein, pour qu'on ait une vague idée quand même. Donc, le narrateur de votre récit, en fait, sort d'une rupture atrocement douloureuse, rupture amoureuse, et il, pour contrer le sentiment de solitude et de déréliction auquel se trouve confronté, il va s'inscrire sur un site de rencontre. Et à partir de là, vous racontez comment petit à petit, il est entraîné dans une espèce de spirale qui va très rapidement le dépasser. Comment cette inscription sur ce site va se muer très vite en addiction. Et puis, en processus absolument destructeur et dévastateur. Alors peut-être que pour commencer, vous pouvez nous éclairer quant au titre « Fake », qu'est-ce que ça signifie ?«
Fake », c'est un mot que je ne connaissais pas avant de m'inscrire sur les sites de rencontres. C'est « Fake », c'est un faux profil, c'est-à-dire... Sur un site de rencontre, on s'y inscrit en créant un profil qui doit à peu près correspondre à ce qu'on est. Mais effectivement, on peut tout à fait créer des profils qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on est. Et j'ai découvert cela d'abord d'une façon ludique et après d'une façon un peu plus... perverse quand je fréquentais les sites de rencontres et dans mon livre le narrateur se sert justement de plusieurs faux profils pour d'abord jouer et puis pour piéger d'autres personnes qu'il fréquente, des femmes, et aussi pour écrire des textes différents avec des personnalités différentes, complètement inventées, des profils, des faux profils, des fakes, qui sont comme des auteurs en réalité inexistants, existants seulement dans la tête du protagoniste du roman, qui est de plus en plus éloigné de lui-même, et il est de plus en plus dans la dissolution du jeu.
Donc c'est aussi des prétextes pour l'écriture en elle-même, enfin des motifs d'écriture. D'accord. Donc au départ, il s'inscrit sur un site qui s'appelle Point Commun, et donc un site qui est censé rassembler des gens qui justement ont une espèce de parenté intellectuelle, ou enfin qui se retrouvent sur certaines choses. Et en fait, ces gens-là, vous les égratignez d'une manière extrêmement cruelle. Enfin, ce qui ressort de votre analyse, c'est que, en gros, le profil type des gens qui sont inscrits sur ce site, c'est des espèces de bobos bien pensants, absolument conformistes, qui n'ont pas un gramme d'originalité, de singularité. Alors, ça paraît presque caricatural. Est-ce que c'est l'expérience que vous en avez ? Ces gens-là sont si limités et si grégaires et si semblables entre eux ?
Non, mon expérience personnelle sur ce site a été plutôt positive. J'ai rencontré certaines personnes qui m'ont beaucoup marqué et à qui je suis redevable. Beaucoup d'idées que j'ai mis après dans le livre. Mais comme il s'agit d'un roman, il fallait que le protagoniste ait quelques idées sur ce qui se passe autour de lui. Et donc il fallait trancher, il fallait qu'il ait une voix bien précise, une voix... c'est vrai que c'est une satire d'un certain milieu. Surtout, ce qu'il souligne dans ces phrases au début du livre, c'est l'extraordinaire prétention de certains. Et au fil de ces rencontres, il a l'occasion d'écouter des propos absolument délirants autour de projets artistiques qui verront jamais le jour, quoi. Et c'est vrai que dans mon expérience personnelle, depuis que j'habite Paris, donc depuis 12 ans, eh ben, c'est quelque chose de tout à fait proche de la réalité. Souvent, j'ai rencontré des artistes qui avaient quelque chose, qui étaient en train de faire quelque chose, et puis ça prenait un peu de temps, et c'était pas encore abouti, ils étaient très exigeants. Et c'est surtout ça que le narrateur stigmatise, en fait, cette espèce de prétention qu'il appelle artisme, cette volonté de poser, oui, c'est une pose, et de s'imposer comme artiste, alors que l'artiste est rare, l'art est rare, et pourtant dans les bars de Paris, on a l'impression que c'est le quotidien, et forcément ça pousse... ça fait sourire, et le narrateur en sourit aussi, et c'est pour ça que c'est assez grinçant par moment.
Oui, même très grinçant, et alors je suis assez intriguée parce que vous dites par moment, vous dites je, ensuite vous parlez du narrateur, donc vous vous dissociez quand même du narrateur, c'est quand même une entreprise romanesque apparemment. Donc vous avez pris vos distances par rapport à une expérience que vous avez faite apparemment pour réécrire ça, et quel était votre projet, votre objet? Donc est-ce que c'est rendre compte d'une expérience effectivement dévastatrice et justement stigmatiser les dérives liées à l'addiction que peuvent générer les sites de rencontres? Ou alors, est-ce que c'est carrément un projet polémique, enfin une espèce de pamphlet, qui est une exploration aussi de formes émergentes dans la société? Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça?
C'est les deux choses à la fois. D'abord, moi, j'ai vécu une expérience à titre personnel qui m'a fortement marqué. Et seulement ensuite, je me suis dit... Je pourrais en tirer quelque chose, notamment transposer tout ça en forme, dans une forme romanesque. Et quand j'ai commencé donc à écrire ce livre, qui a été pour moi une espèce d'exorcisme par rapport à ce que j'avais vécu, je me suis limité au début à écrire certains portraits ou certaines situations que j'avais vécues. Et seulement après, quelques mois après, une fois que la première version était donc finie, j'ai réalisé que j'aurais pu faire beaucoup plus que ça, à savoir m'interroger sur plus en profondeur sur ces nouvelles technologies, ces nouvelles formes de rencontres qui modifient, d'après moi, de plus en plus les mœurs. Et pour ce faire, j'ai tout lu sur le sujet, tout ce qui en France a été publié, et notamment, et surtout ce qu'en Italie a été publié, parce qu'en Italie, quand même, il y a eu des études plus fouillées, poussées, pointues, tandis que j'ai l'impression qu'en France, c'est encore un sujet négligé par les intellectuels, et pas complètement accepté par les gens, dans la mesure où souvent les personnes qui sont concernées directement, qui sont inscrites, les personnes inscrites à des sites de rencontres, ont du mal à l'avouer. Donc, il y a encore une espèce de honte qui est de moins en moins forte, je pense. Mais ce que j'ai voulu faire, donc, c'était un roman et un roman capable d'éclairer ces nouvelles formes de rencontres. Donc, aussi un livre qui puisse permettre de comprendre certaines dérives liées à Internet, aux sites de rencontres, certains excès. Et c'est pour cela que le protagoniste vit une espèce de déchéance absolue, ce qui n'est pas le cas de tout utilisateur de... Mais il fallait montrer ça par un exemple extrême. Ouais. Et effectivement, il y a aussi un côté pamphlet, dans la mesure où j'attaque carrément cette forme de commerce de la sphère intime que les sites de rencontre pratiquent. C'est quelque chose qui est complètement de l'ordre des choses, c'est complètement dans l'air du temps, mais ça a un côté ignoble aussi.
Mais alors, par rapport à la forme antérieure devenue un peu archaïque, voire caduque, des rencontres via petites annonces, par exemple, qu'est-ce que ça change de passer par ces sites de rencontres, passer par Internet ? Alors, je pense qu'il y a une accélération, d'abord, vous le montrez, hein, incroyable. Tout est facilité, on peut se connecter à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, contacter des quantités de gens, enfin, tout est démultiplié, c'est ça ?
Tout change. Par exemple, sur des sites très fréquentés comme Mythique, il y a une quantité de contacts possibles qui est grisante. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Et
c'est immédiat, ça peut être immédiat. Et à côté de ça, une autre chose qui change radicalement, c'est la facilité que ces moyens... induisent à créer du fantasme à travers l'écriture, à travers la correspondance. On peut aussi bien à tout moment du jour ou de la nuit rencontrer quelqu'un, notamment à Paris. Moi, en habitant Paris, j'essayais de contacter des personnes qui habitaient à Paris, et le contact peut être très rapide puisque les distances sont... Voilà. Donc, on peut rencontrer quelqu'un immédiatement, ou bien on n'est jamais rencontré quelqu'un et seulement on fantasmait de quelqu'un en entretenant des correspondances qui durent des mois ou des années.
Ce que vous montrez très bien, c'est l'empire que prend le virtuel sur la vie du narrateur. Il vit complètement dans un monde parallèle. Il n'est plus du tout connecté au monde réel, et en fait, tout se détraque dans sa vie. Y compris les rythmes les plus élémentaires, la nourriture, le sommeil, tout ça, ça devient complètement... ça part en bouillie, en fumée. Son corps même se délite parce qu'il vit une sorte d'aliénation. Hein. Il est surtout connecté la nuit, donc les rythmes sont inversés en plus. Il sombre dans une espèce de cauchemar absolu, où il est complètement dépossédé de lui-même. Et alors, ce qui est frappant aussi, c'est en fait à quoi aboutissent ces connexions avec ces femmes qui se mettent à rencontrer très vite. Il n'y a pas grand-chose à sauver à travers ce dont rencontre le narrateur, parce que ça donne lieu à quoi ? Des rencontres extrêmement brèves, la plupart du temps extrêmement décevante. Alors, dans le meilleur des cas, ça aboutit à une coucherie d'une nuit qui est sans prolongement. Et en fait, il se passe jamais rien de beau, c'est horrible. Enfin, c'est d'un cynisme total.
C'est si, parce que le narrateur est issu d'une histoire qui le hante encore. Et il a besoin de se divertir au sens pascalien. Il a besoin de sortir de lui-même. Donc c'est bien vu le terme aliénation, il est de plus en plus aliéné, et effectivement, surtout dans la deuxième partie du livre, il commence à en souffrir physiquement, il est complètement détraqué, il boit beaucoup, d'ailleurs il fume beaucoup, et ses rythmes sont altérés. Et il rentre, il a de moins en moins de prise sur le réel, et il rentre à la fin du livre dans une dimension complètement fantasmatique, irréelle, presque rêvée, sauf qu'il s'agit d'un cauchemar, et qui est celle de la multiplication de ses personnalités à travers la création de différents fakes qui lui servent et pour piéger et contrôler notamment une maîtresse qui s'appelle Jade, qui a un rôle important dans le livre, et pour écrire et multiplier ses comptes rendus de psychiques. Donc il y a une réelle progression qui va de point commun à mythique jusqu'à...
Ouais, donc au départ, donc, il a inscrit sur ce site point commun. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que donc, c'est des gens qui sont censés avoir des points communs et qui les explorent, les développent à travers les messages. Et au bout du compte, quand on passe au stade de la rencontre, on se rend compte que, au contraire, enfin, comment dire, ça ouvre sur rien. Il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de... Alors que ça devrait justement faciliter ou favoriser... voilà, enfin, y a tous les éléments, normalement, sont réunis pour qu'une rencontre chargée de sens ait lieu. Et c'est l'inverse qui se produit. À chaque fois, le narrateur est déçu.
Disons que, pour revenir à la réalité, l'idée du site, moi, je l'ai toujours trouvée très bonne, celle de mettre en avant des points communs liés à la sphère culturelle. Après, encore une fois, le narrateur est quelqu'un de curieux et quelqu'un qui a envie de sortir de lui-même. Et il n'a pas effectivement... Il est aveugle vis-à-vis de l'autre. Il n'a pas beaucoup d'égard envers l'autre. Et donc, c'est pas sûr du tout qu'on ne puisse pas avoir de points communs. Et c'est pas sûr du tout qu'on ne puisse pas créer quelque chose à travers une rencontre comme une rencontre internet, pas du tout. C'est pas le propos. Le propos du narrateur, c'est de finalement, oui, de dénoncer, de montrer une certaine misère, une déchéance, oui, une incertitude, un flottement. Et lui, il traverse tout ça en observateur.
C'était que voilà, il passe son temps en fait à, dans un premier temps, à observer, à juger les utilisateurs du site Point Commun, et puis il se montre très peu indulgent, il a un mépris total envers ces gens, et au fond, qu'est-ce qui l'autorise à être aussi condescendant, parce que il fait partie de ce peuple des utilisateurs de ce site, et alors, en quoi est-ce qu'il diffère? En quoi il se situe au-dessus? Alors, je me suis dit, est-ce qu'il se sent supérieur parce qu'il a adopté justement un point de vue d'explorateur, d'observateur, d'écrivain qui utilise ce matériau et qui donc voilà, se situe d'un point de vue externe? Ou est-ce que c'est simplement une prétention naturelle qui fait que... qu'il tape facilement sur les autres plutôt que de se remettre en cause lui-même.
Au début, le narrateur, effectivement, est assez complaisant et il observe tout ce qui se passe sur le site avec une espèce d'étonnement amusé. Et puis, petit à petit, au fil des pages, il se rend compte que lui aussi... En étant inscrit sur ce site, il ne se démarque pas tellement des autres, mais ça vient progressivement. Et plus on avance dans la lecture, plus on s'aperçoit que le narrateur n'est pas vraiment complaisant envers lui-même. Et au contraire, il va avoir un très mauvais rôle. Ce qui l'étonne au début, c'est surtout la standardisation des goûts et une espèce de politiquement correct qui est très, très répandue. Ça l'étonne vraiment.
Et puis il y a autre chose aussi, c'est en passant du stade du message et de la rencontre, c'est qu'il s'aperçoit à chaque fois que, évidemment, les gens se sont enjolivés. Enfin bon, ça c'est en même temps, c'est humain, mais la plupart du temps, c'est ça. Enfin, il y a vraiment un écart, voire une béance entre ce que laissaient supposer les textes, les photos surtout, et puis la réalité qui est un démenti cinglant la plupart du temps. C'est ça.
Peut-être pas la plupart du temps, mais ça peut arriver. Et ça... Et ça aussi, c'est le fake, enfin, c'est la falsification. Dès qu'on commence à se présenter, en suivant des grilles de présentation, on est déjà dans la falsification de l'être, dans la simplification de l'être. L'être qui se présente frontalement à vous, au moment de la rencontre, c'est toujours quelque chose de choquant, c'est toujours quelque chose qui vous désarçonne. Et je dirais que, non, la plupart du temps, on se reconnaît. Mais effectivement, il y a aussi des situations assez cocasses où on n'y est pas du tout.
Et alors, cette uniformisation des goûts que vous avez observée, d'où elle vient, d'après vous? C'est que les gens n'ont vraiment aucune personnalité propre ou qu'ils s'imaginent que c'est un faire-valoir d'adopter les goûts de tout le monde ou les goûts qui sont à la mode?
Moi, ce qui me déplaisait vraiment, c'était, je le dis encore, une espèce de prétention à l'artisme. Et sur ce site, on peut écrire des commentaires, on peut commenter effectivement un film qu'on a vu ou un livre qu'on a aimé. Et il y a sans doute des gens très intelligents qui le font. Le problème, c'est quand il s'agit de création littéraire, comme ils appellent, on peut classer son texte dans la case création littéraire. Là, effectivement, les choses se corsent. Ils prétendent modestement, tout en restant dans le cadre du site, mais quand même, comme j'ai une haute considération de la littérature, je trouvais ça un peu pathétique. De la mesure où moi je montrerai ce que j'ai écrit une fois que ça sera achevé et non pas avant pour avoir le consensus des autres. C'est ça qui me déplaisait, ce côté forum où, ah oui, t'as bien écrit, oh, c'est bien écrit, c'est bien tourné.
Oui, je suis bien d'accord, c'est bien la marque, c'est pas des créateurs authentiques. Ouais. Et alors, en fait, ce qui est aussi très marquant, c'est, et ce que vous soulignez tout au long du livre, c'est la prolifération de la solitude affective, l'impression qu'il y a une quantité de gens qui ont recours à ces sites. Et comment ça se fait que les gens soient aussi seuls, affectivement, amoureusement? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi?
Ça, il faudrait peut-être poser la question à des sociologues. Moi, j'ai constaté ça. Moi, j'ai, par exemple, dans mon expérience personnelle, la plupart de mes rencontres étaient des rencontres avec des femmes qui avaient entre 30 et 40 ans et qui avaient justement quitté une relation, venaient de quitter une longue relation. Et souvent, elles avaient des enfants et se retrouvaient. Et donc seul, souvent elles devaient gérer, enfin s'occuper de leurs enfants, ça leur prenait beaucoup de temps, le travail, et le soir forcément, elles avaient trouvé dans ce moyen de rencontre une façon de sortir de leur solitude, tandis qu'avant l'invention de Mythique, par exemple, c'était un peu plus dur de nouer des contacts. Mais je suis sûr que les sociologues, on saurait dire davantage, quoi.
Et alors, dans le roman, en fait, au bout d'un moment, le narrateur enfin, le sentiment d'avoir fait le tour un peu de ce premier site qui s'appelle Point Commun, et puis bon, qui est un peu saturé. Et du coup, il va en essayer un autre qui s'appelle Mythique. Et là, c'est là que l'accélération commence, hein, et la spirale et la dégradation, en fait, parce que Mythique, on a le sentiment que c'est encore, tout est encore, enfin, tout se démultiplie, enfin, tout est décuplé, ça devient atomique, les possibilités. Et puis, on a l'impression aussi que, contrairement au premier qui avait justement une espèce de petit vernis intellectuel, voire spirituel et tout, là, c'est brut, c'est quelque chose de purement sexuel. Ce qu'on recherche, c'est... non ?
Disons que quand le narrateur sort de Point Commun, sans jamais en sortir vraiment, mais il passe à Mythique, il se retrouve dans un univers qui n'est pas balisé par les goût culturel. Et il se trouve que le narrateur est quelqu'un qui... Le narrateur est traducteur, donc il est très, très lié à la littérature. Et quand il se retrouve dans l'univers de Mythique, il perd tous les repères et il se retrouve face à une quantité de contacts possibles qui n'est pas comparable à celle de Point Commun, qui reste un petit site de niche, très, très bon enfant, en somme toute, presque un forum. Mythique, c'est pas du tout ça, et c'est l'indéterminé. Et il se retrouve, le narrateur, à fréquenter pour un café ou plus des personnes issues de milieux... complètement, qui lui sont complètement étrangers qui exercent de professions qui ne l'intéressent pas du tout. Il est très curieux, donc il va vers tout, mais ça s'accélère effectivement et il commence à se perdre sérieusement. Et pour ce qui est de Mythique, je dirais pas que c'est un site seulement orienté aux relations sexuelles, mais ça peut être psychologiquement très dur. La quantité de contacts possibles, la vitesse des rencontres, et il faudrait avoir bien clair en tête ce qu'on cherche, et le narrateur, il n'est pas très sûr.
Pourquoi il prend jamais le temps, justement, d'apprécier, de savourer les rencontres, de laisser... il cède complètement à la tentation de l'accumulation, et sans jamais prendre le temps d'une digestion, au fond, et de... Voilà, et très vite, il arrive à une sursaturation, et... On a le sentiment qu'il perd la notion des gens qui contactent, même des corps avec qui il a un commerce. Il s'en souvient plus le lendemain. Enfin, c'est complètement vertigineux, épouvantable, c'est glaçant. Enfin, c'est vraiment un univers de science-fiction quasiment dans lequel on tombe.
Oui, c'est poussé à l'extrême. Le narrateur est complètement drogué. C'est comme moi je décris là les effets d'une drogue puissante, d'une addiction. C'est pas le cas, de tous les utilisateurs de ces sites de rencontres, bien que, effectivement, ce vertige des rencontres possibles peut effectivement être très très prenant, quoi. Bon, il s'agit d'un roman, donc. Tout est à l'extrême.
Ouais. Oui, alors qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui l'incite à revêtir ses masques, ses fakes ? Parce que, en fait, il le fait dans un but avoué de manipulation des interlocutrices ou interlocuteurs, éventuellement, puisqu'il se crée même des avatars femmes. Féminine, et la plupart du temps, en fait, on a l'impression que... alors, il y a un côté ludique, hein, je pense, une curiosité authentique. C'est un jouet et puis il s'amuse avec. Mais il y a aussi une tentative de domination de l'autre, de réduire l'autre en esclavage ou de l'humilier, enfin, puisque l'autre est dupe. L'autre se met à fantasmer sur le profil créé et voilà, et on le perd sa jour et soi-même on est drapé derrière son masque, son fake. C'est extrêmement cruel, enfin c'est
pervers. Et d'abord, le narrateur est piégé par une maîtresse qui lui donne un rendez-vous à travers un faux profil, un rendez-vous qu'il accepte sans se douter qu'il s'agit de la même personne qu'il fréquente à ce moment-là. Donc d'abord, il est victime d'une manipulation, et ensuite, il perfectionne l'art de la manipulation, puisqu'il s'agit bien de ça. Et là, je voulais montrer comment, à travers des fausses fiches ou à travers un contrôle de l'autre, on peut percer à jour la vraie nature de la personne qui est en face ou qu'on fréquente
sans se dévoiler,
mais surtout en mettant en évidence le caractère factice de cette entreprise de site de rencontre, puisque presque chaque utilisateur a, par exemple, plusieurs contacts, plusieurs correspondances. Du moment où on s'inscrit, on a plusieurs fiches qui nous intéressent, on établit plusieurs contacts, on est déjà démultiplié dans notre personnalité, on est déjà très partagé. Et si quelqu'un d'autre vient souligner ce fait par un acte de manipulation, et ben voilà, c'est la vérité qui pointe.
Alors en fait, c'est quelque chose de complètement narcissique et de une espèce de enfin, on est complètement à la fois renvoyé à soi-même et projeté dans une espèce d'inconnu total, pulvérisé, l'identité est pulvérisée. Or, et on a le sentiment qu'au bout du compte, ces sites qui sont censés favoriser l'approche de l'autre, en fait, détruisent à la fois l'altérité, puisque tout est virtuel, et aussi l'identité. Donc il n'y a plus d'autre, il n'y a plus de soi, il n'y a plus rien, tout vole en éclats.
Ça dépend de la façon.
Mais tel que vous le décrivez, disons.
Ah oui, ah oui, complètement. Et ce qui se passe dans la tête du narrateur, c'est que il tente, il piège les autres pour que les autres, les personnes qu'il fréquente, les femmes qu'il fréquente, se dévoilent. Et lui, de son côté, il fait bien pire que les femmes qu'il fréquente. Et lui, il multiplie et il cache ses relations parallèles. Et il voudrait être presque justifié par le comportement des autres. Il voudrait constater que les autres en font autant. Et parfois, il arrive à constater ça, notamment avec son double, Jade, qui joue son même jeu. Et là, on est vers la fin du livre.
Ouais. Alors donc, oui, vers la fin, il rencontre cette... Enfin, il contacte cette femme qui prétend affecte de se prénommer Jade. Et en fait, il s'avère que c'est une espèce d'archétype de la femme fatale, de l'allumeuse incaptable, qui adopte une conduite complètement perverse parce que à la fois elle le séduit et puis en même temps elle ne cesse de se dérober, elle lui pose des lapins sans arrêt, enfin elle les conduit, elle joue du chaud et du froid, enfin elle est invivable. Et c'est précisément à elle et elle seule qu'il va s'attacher comme un fou, il va devenir... Là encore, c'est, là, c'est une seconde addiction après celle de la technologie pure. Il va devenir esclave, enfin, il va vivre dans une situation d'aliénation par rapport à cette femme, attendant, enfin, guettant le moindre de ses signes. C'est une espèce de métaphore de l'ensemble de...
Ça peut être aussi une histoire d'amour assez malsaine. Le roman s'ouvre donc sur une rupture et se clôt sur une rupture. Mais cette femme peut être aussi vue comme l'incarnation de l'âme même du narrateur qui lui échappe continuellement. L'âme, son âme, il essaye de suivre, de rattraper ce qui lui échappe douloureusement et il n'arrive pas à la rattraper.
Oui, mais c'est un peu son âme damnée quand même, on a là, ouais. Alors oui, le roman s'ouvre sur une rupture, donc je disais extrêmement douloureuse et qui renverse complètement le narrateur, qui le met par terre. Mais en fait, au fil du roman, ses relations avec cette jeune femme qu'il a quittée, elle l'a quittée, ce Judith, ouais, se modifient parce qu'elle va petit à petit revenir vers lui, tenter une réconciliation, un rapprochement. Et là, du coup, c'est lui qui la répudie quasiment. On a l'impression que pourtant... sentiment au début qu'il est fou d'elle, qu'il ne peut pas vivre sans elle, que vivre sans elle, ça le détruit. Donc, pourquoi ce renversement de situation ?
Parce que le narrateur a commencé à s'enivrer de rencontres, et c'est surtout au début, il ressent vraiment une sensation d'ivresse. Par rapport à tout ce qui est offert sur la toile à travers Internet, et il n'a plus le temps, tout simplement. Il est de plus en plus éloigné de son passé et de la perspective d'une vraie relation. Il enchaîne les fausses relations en espérant que 4 fausses relations puissent faire une relation, et c'est l'heure. C'est l'heure tout au long du livre. Et il ressent une espèce de nostalgie, il la fréquente encore, mais il est incapable de revenir en arrière. Il fuit son présent, il fuit son passé, il ne sait pas ce qui lui arrivera. Il est complètement aveuglé.
Alors, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que dans la deuxième partie, avec les fakes, là, les masques qu'il emprunte, en fait, on ne peut pas dire quand même que c'est absolument sans limite, parce que vous citez l'intervention de modérateurs du site qui le démasquent, ils sont quand même assez lucides, clairvoyants, enfin perspicaces, puisque ils arrivent à l'identifier, ils se rendent. C'est pas forcément évident, hein, je sais pas si donc il le tense, il le rappelle à l'ordre et il lui ordonne d'arrêter ses escroqueries, quoi.
Oui, c'est pas vraiment des escroqueries, mais c'était ça, c'est une chose qui m'est vraiment arrivée de créer des fakes très populaires sur le site, et ils sont assez facilement détectables dans la mesure où les modérateurs du site peuvent voir tout de suite le code IP qui envoie le, donc ouais. Tout simple.
Moi je pensais que c'était par rapport au style et tout qui est super.
Non, c'est tout simplement une question d'informatique. Et là, il y a le côté, pour moi, insupportable de la censure, le côté, la censure qu'on peut subir.
Oui, mais quand même, enfin, je sais pas, manipuler les gens. Enfin, c'est quand même grave de générer des fantasmes qui sont suivis de rien. Enfin, qui sont non, c'est pas grave. C'était jubilatoire comme ça de se démultiplier.
C'était un petit jeu qui n'a pas duré longtemps, mais quand on s'inscrit sur un site de rencontre, donc on rentre dans une dimension virtuelle, il faut s'attendre à tout, il ne faut pas être naïf là-dessus, et ben, elle est naïf, ben c'est tant pis pour eux. Mais tout le monde peut manipuler l'autre, c'est un peu l'un des aspects que je montre dans mon livre. On peut être manipulé à tout moment, et de la part des membres, et de la part des modérateurs qui nous contrôlent. C'est pas vraiment de la manipulation, mais bon, en quelque sorte, on n'est pas libre de tout dire.
Vous devenez aussi cynique que votre narrateur. Et alors, il y a tout au long du livre, enfin, le livre est parcouru, irrigué aussi par la figure de Crevel, hein, non ? Crevel que le narrateur traduit. Il est en pleine traduction. Et alors, c'est des beaux passages, parce qu'il y a des citations de Crevel donc, qui émaillent le texte. Et alors, je me demandais si c'était pour faire contrepoint, comme ça, pour justement, en mettant en avant, en mettant l'accent sur la beauté des textes de Crevel, dénoncer d'autant plus la médiocrité ambiante sur Internet, ou si c'est simplement parce que les textes de Crevel font écho à la profonde déréliction du narrateur.
Oui, c'est essentiellement pour la deuxième raison, oui. Le narrateur a du mal à traduire ce livre, mon corps et moi, de Crevel, parce que c'est pour lui comme un miroir où il se voit, où il voit sa souffrance identique. Et très souvent dans le livre, il cite dans ses notes des passages qui l'ont bouleversé, qui l'ont profondément marqué. Et une autre raison de la présence de Crevel dans ses livres est une raison liée à la langue. C'est un livre sur la langue, sur la langue tout court. D'abord la langue qui est quand même, et l'écriture qui est quand même le facteur le plus visible, la caractéristique principale des sites de rencontre, qui se base sur l'écriture, sur l'échange écrit. Et la langue littéraire, puisqu'il est traducteur, la langue qu'il a appris, puisqu'il est étranger et il vit dans un pays où la langue n'est pas la sienne, et aussi la langue telle qu'elle évolue tous les jours. Par exemple, à un moment donné, le narrateur, il se retrouve complètement désarçonné vis-à-vis de certains messages ou mails qu'il reçoit de femmes très très jeunes, de 20 ans, 22 ans, qui écrivent dans un français très approximatif. Et donc, Fake, c'est un livre surtout sur la langue, je dirais.
C'est vrai, oui. Et alors, à la fin, le narrateur s'aperçoit qu'il est, enfin, s'il continue sur cette pente-là, il va vers sa perte absolue et il prend la décision salutaire de se déconnecter. Alors, est-ce que c'est ce que vous avez fait ? Est-ce que vous êtes déconnecté ?
Oui, oui, je me suis déconnecté. J'ai encore quelques fakes qui me permettent de suivre les polémiques que le livre a engendrées sur Point Commun. Mais effectivement, il a bien fallu que j'arrête ce jeu, parce que ça aurait, comme je le dis dans le livre, ça aurait pu durer à l'infini. Il fallait bien.
Ça peut dévorer une vie, quoi.
Ah oui, tout à fait. Et l'écriture du livre m'a servi pour clore une époque, une période de ma vie.
Est-ce que vous avez eu écho de gens qui sont tombés dans ce travers, enfin d'être complètement happés par cette cette occupation, cette activité, cette drogue. Oui, il y en a beaucoup.
Beaucoup. Enfin, moi, j'ai écouté énormément d'histoires. En rencontrant beaucoup de femmes, j'écoutais ce que j'aimais le plus, c'était écouter leurs histoires. Et donc, beaucoup d'histoires qu'on m'a racontées, je les ai mises dans le livre. Donc, j'ai piqué pas mal de phrases aussi que je notais sur mon cahier, comme ça, parce qu'elles me surprenaient. Et beaucoup de femmes rencontrées étaient complètement addictes à cette façon de rencontrer. Donc, c'est pas seulement le narrateur qui a du mal à tisser une vraie relation, c'est souvent aussi les personnes qui rencontrent qui ne veulent pas vraiment s'engager. Lui, il passe rapidement. Effectivement, c'est des portraits assez brefs, mais c'est son point de vue.
Oui, de consommateur pur et simple, quoi. Il prend les femmes, jette aussi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors il y a quand même une figure qui se détache et qui échappe un peu au sordide général du livre et du monde décrit. C'est celle de Catherine, une femme qui rencontre donc c'est via le premier site, je crois.
Oui.
Ouais. Et qui est en fait atteinte d'une maladie incurable, et il va nouer avec elle une relation assez tendre, assez pure, assez belle, et il va l'accompagner jusqu'aux portes de la mort, quasiment.
Oui, c'est une amitié, essentiellement. Le narrateur part en voyage avec elle, l'accompagne à l'hôpital pour ses examens, c'est presque une présence, une figure maternelle ou par certains côtés. Elle est beaucoup plus âgée et elle écoute sans émettre de jugement le récit de ses aventures, les aventures du protagoniste. Donc c'est là où le narrateur... c'est avec elle que le narrateur se retrouve en sûreté, se retrouve. C'est une espèce de famille. Enfin, il forme une espèce de famille avec cette femme qui va bientôt mourir. Et c'est d'autant plus important pour le narrateur que, comme il le dit au début, il n'a pas de famille. Enfin, il n'a pas de famille, il est en exil, il se considère en exil, en tout cas il n'est plus dans son pays.
Oui,
il déteste l'Italie. Et cette figure, Catherine, lui donne oui, c'est une famille qui une espèce de il forme avec elle une espèce de famille qu'il accepte, tandis qu'il n'avait pas complètement accepté la famille de Judith.
Oui, alors ça c'est des passages assez drôles, parce que le narrateur évoque le père de Judith, qui est un philosophe, un universitaire réputé, une espèce de sommité, boursouflé de vanité. C'est comme ça qu'il est absolument présomptueux, insupportable, et il se voit pas du tout intégrer cette famille là justement. Donc c'est peut-être aussi ça peut-être que ça justifie aussi la rupture d'une certaine manière. Et oui, et donc avec Catherine il trouve un succès d'année de famille, mais est-ce que tout n'est pas que expédient dans ce monde, dans ces relations générées par le virtuel? Est-ce que on peut créer quelque chose de solide
de la réalité?
Oui.
Je pense que oui.
Oui.
Je pense que très facilement, il suffit d'oublier, de se désinscrire, oui, de jeter l'ordinateur par la fenêtre.
Oui.
Ce qui est très important pour moi, ce qu'il faut absolument souligner, c'est que une fois qu'on a connu cette expérience, difficilement on l'oublie. Mettons que deux personnes se rencontrent à travers Internet et commencent une histoire. Et quand l'histoire se termine, tout de suite, ils seront tentés par l'expérience Internet parce que c'est l'expérience la plus immédiate. Et cette proximité, cette tentation constante change la donne, change les relations. Souvent, on a, je dirais, ça accélère les relations. On a de moins en moins de patience, d'attente. Oui, aussi. Ouais. Ça, on ne le sait pas, on ne le dit pas encore, mais je pense que les sociologues vont s'y pencher, et les anthropologues aussi.
Et alors oui, je voulais parler de la réception du livre aussi, comment ça a été reçu justement dans ces milieux que vous fréquentiez, là, de mythique, de points communs. Enfin, vous avez eu manifestement des réactions.
Bah, mythique n'a aucune réaction. Non. Je ne sais pas s'ils sont au courant, j'espère que oui. Mais... Et Point commun, par contre, qui est une espèce donc, de forum où les gens discutent, a reçu environ 12 commentaires écrits sur mon livre, tous négatifs de la part, à la sortie du livre, de la part de gens qui ne l'avaient pas lu et qui s'imaginaient... Non, c'est vrai, ils ne l'avaient pas lu, ils se disaient « mais non, mais jamais je lirai un... » le livre de quelqu'un qui raconte ses aventures sur les sites de rencontres, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais il ne l'avait pas lu. Alors, d'un côté, il ne savait pas de quoi il parlait. Et d'un autre côté, il faut compter aussi sur la jalousie qu'ils peuvent certains ressentir vis-à-vis de quelqu'un qui, sans en faire des tonnes, tout simplement écrit son livre et l'a publié, quoi.
C'est les aspirants écrivains, etc. Donc ouais, forcément. En même temps, peut-être qu'il y a une forme de paranoïa, peut-être qu'ils croient qu'on les a justement épinglés, etc. Enfin bon, je sais pas. Mais ouais.
Bah, oui, il y a un côté, comme vous disiez tout à l'heure, presque grotesque dans la caricature de ce milieu-là. Mais comment faire autrement ? Il faut faire des portraits drôles et il faut faire ressortir le pathétique des situations, sinon ça n'a pas d'intérêt.
Et alors pour vous, l'écriture de ce livre, est-ce que c'est quelque chose de circonstanciel ? C'est lié à cette expérience précise ou est-ce que c'est essentiel ? C'est quelque chose qui vous habite depuis toujours ? Enfin, d'où ça vient l'écriture en vous ?
J'ai toujours écrit, mais disons que d'abord, j'ai toujours écrit en italien et puis... Je me suis installé en France en 1994 et petit à petit j'ai appris le français. Et il y a 2-3 ans, je me suis dit que j'aurais pu essayer d'écrire en français. Et j'ai fait des tentatives. Et puis petit à petit, je suis passé au français en abandonnant complètement l'italien. Ça a été un passage très difficile et douloureux.
Pourquoi avoir choisi la France, le français, c'est pour la langue ?
La France, parce que je suis arrivé en 94 vaguement pour des études et que j'ai décidé que c'était l'endroit où je voulais vivre. Et la langue, puisque je suis ici et je voulais être lu par les Français et ne plus avoir de relation avec l'Italie. Donc c'était net pour moi.
Vraiment, oui, la haine de l'Italie, de tous les poncifs italiens, enfin vraiment, vous êtes anti-italien. Ouais. Et donc, vous avez d'autres projets, j'imagine, en cours ou... Quelque chose de carrément différent ou...
Pour finir sur la question de l'écriture de ces livres, j'aurais de toute façon écrit quelque chose. J'ai écrit ce livre parce que je pensais avoir un matériau intéressant. Je ne suis pas allé sur les sites de rencontres pour écrire un livre. Mais une fois vécu cette histoire, je me suis dit je voudrais écrire un roman qui parle de tout ça. Et je pense que personne ne l'avait fait avant. Et je voudrais montrer tous les aspects de ce phénomène aussi. Donc je voudrais que aussi les sociologues puissent y lire quelque chose d'intéressant, non seulement le lecteur ou le fréquentateur d'un site de rencontre. Et
il y a eu des échos de sociologues,
d'ailleurs ? Non, pas encore, non. Ouais. Et donc, je vais continuer à écrire. Pour l'instant, non, mais sans doute.
Et votre univers à vous, littéraire, c'est quoi vos influences, vos maîtres, c'est quoi votre panthéon personnel ? Qu'est-ce qui vous inspire ?
Jusqu'à l'âge de 20 ans, je lisais surtout de la poésie. Puis en France, j'ai commencé à lire plus de prose. Beaucoup d'auteurs m'ont marqué. J'aime beaucoup un écrivain qui s'appelle Marcel Jouandeau. Voilà, Marcel Jouandeau, c'est quelqu'un que je lis beaucoup en ce moment. Et un autre écrivain que je trouve très intéressant, que je lis en ce moment, c'est Félix Fénéon, notamment Les Nouvelles en trois lignes. J'aime bien les portraitistes.
C'est moraliste aussi.
Oui, aussi, oui.
Oui, alors est-ce que vous pensez avoir fait œuvre de moraliste, là, avec votre livre ? Un petit peu, hein.
Écoutez, on m'a déjà dit que la dernière phrase du livre implique une certaine morale.
Pas morale au sens lourd et primaire du terme, un vrai moraliste qui étudie les mœurs de son époque.
Oui, sans doute, oui. Et il ne faut pas oublier que ce livre, c'est une attaque frontale à ce système de mise en vente des sentiments. Donc oui.
Est-ce que ça a été facile à publier ? Est-ce que vous avez trouvé un éditeur rapidement ?
J'ai montré ce texte à Gérard Berrebi des éditions Alia qui...
C'est le premier à qui vous avez...
Oui, parce que j'avais déjà fait quelque chose avec cet éditeur. Et qui a émis des sévères critiques à la première version, et au point que je ne savais pas s'il fallait continuer à écrire ou pas. J'ai continué comme ça pendant quelques mois, et puis au bout de 5 mois, je lui ai montré une deuxième version qui lui a un peu plus plu, et puis on y a travaillé encore.
J'en ai fait 12 versions.
12 versions, ouais. Oh, vous êtes un puriste, un perfectionniste, ou alors c'est lui?
Il le faut bien,
il faut... Disons que dans le premier jet, il y avait déjà la structure du livre. Ça n'a pas changé. Mais après, toute la recherche sur la forme, et aussi... Oui, sur la forme, eh ben, puisqu'il est né en forme de fragments, ce livre, la recherche sur la forme était... la meilleure disposition des fragments. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et aussi, le contenu, voilà, je l'ai beaucoup travaillé, je me suis documenté.
Ça, c'est intéressant quand même, parce qu'en fait, oui, donc vous soulignez tout le travail qui sous-tend le résultat final. Et en fait, ce qui est curieux, c'est ça prouve que c'est extrêmement bien fait. C'est que ça prouve aussi l'abrutissement des journalistes. Mais bon, le fait est que certains journalistes, en fait, ont pris le livre au premier degré. C'est-à-dire que comme c'est écrit la première personne, ils ont absolument confondu le narrateur et vous. Ils ont tout pris pour argent comptant et... Et certains vous ont même attaqué frontalement, comme s'il y avait aucune, enfin comme si le fait même d'écrire n'impliquait aucune distance, sous prétexte qu'on parle à la première personne. C'est quand même incroyable qu'il y ait que ce contresens continue d'exister.
Oui, ben, je le dis dans le livre à un moment donné. Le narrateur publie un commentaire et puis. Tout le monde sur le site a l'air de croire à ce qu'il raconte, et lui il dit Mais comment c'est possible, en fait, à chaque fois que le jeu apparaît dans un texte, n'est pas qu'un, n'est qu'un tortionnaire de fantômes, c'est-à-dire une présence de rêve, c'est ça. Et pour revenir aux choses qui m'ont influencé dans l'écriture de ce texte, j'ai cité le nom de Juando, mais bon, c'est un modèle inatteignable pour moi. Et c'est surtout, je dirais, les comptes rendus des parties d'échecs. Moi, je suis un joueur d'échecs et j'en parle dans le livre. Souvent, on lit des comptes rendus qui peuvent être qui peuvent avoir cette forme. Par exemple, la simple poussée du pion des deux semble anodine et pourtant Topalov prend trois quarts d'heure pour réfléchir à la parade. Hélas, c'est pas la bonne. J'adore le côté laconique, dramatique, la tension, le suspense.
C'est vrai que c'est complètement dramaturgique et bah, votre livre aussi. Bah, merci infiniment, Giulio Minghini. Donc, je rappelle le titre de votre livre Fake, publié aux éditions Alia. Donc, lecture que je recommande vivement.